Et le Seigneur, il me met au défi de faire beaucoup plus courage. Je suis content d'avoir pris mon PowerPoint, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite pour les versets et on ne perdra pas de temps à chercher. Et on va essayer d'optimiser tout ça. La dernière fois, on avait parlé des langages d'amour, en fait, et c'était orienté, en fait, entre notre façon d'exprimer notre amour essentiellement à notre conjoint, même si ça s'applique à nos amis, à nos enfants, finalement à tout le monde. Et donc, juste pour vous remettre les idées principales de la fois dernière, c'était tiré donc d'un livre, c'était pas du tout mes idées. Et d'après l'auteur, on peut tous plus ou moins se considérer comme des réservoirs d'amour. Et en fait, si notre réservoir est vide, on peut pas remplir celui des gens, on peut pas leur exprimer notre amour. Et quand il est plein, au contraire, on a de la facilité à donner de l'amour aux gens et à remplir le leur. Donc bien évidemment, quand on a le réservoir plein, on vit correctement, finalement on profite de la vie que le Seigneur a pour nous, et quand le réservoir est vide, on a un mal-être, quelque chose, il nous manque quelque chose, il nous manque l'amour du Seigneur. La deuxième idée de l'auteur, c'était qui classait l'amour, finalement, les façons d'exprimer l'amour en 5 catégories, qui étaient les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et donc, il expliquait que, en tout cas, je vous avais expliqué, qu'on a chacun plus ou moins un langage qui est naturel, comme nous, on parle de base le français ou l'anglais pour certains, et que donc on a chacun une façon d'exprimer l'amour qui nous est particulière dans ces 5 catégories-là, et que si on nous parle dans cette langue-là, on va le recevoir correctement. Si on ne nous le parle pas dans cette langue-là, on va dire que le transfert, il n'est pas très efficace. Et comme avec une langue... comme on a une langue maternelle et on peut en apprendre d'autres dans la vie, on peut aussi, dans l'amour, apprendre une autre langue, une autre façon d'exprimer l'amour. Et si je m'exprime particulièrement par des paroles valorisantes, je peux apprendre aussi le toucher physique ou les cadeaux, et je peux apprendre à manier l'amour de cette façon-là et à le donner aux gens de cette façon-là. Ce qui me permettra de remplir le réservoir des gens qui parlent cette langue-là, finalement. Et en fait, ces 5 langages d'amour, ils sont uniquement le reflet de ce que Dieu nous donne. Et si nous, on a ces 5 façons d'exprimer l'amour, malheureusement, nous, on parle qu'une seule langue, ou on peut en apprendre d'autres, mais ça demande un effort. Dieu, lui, il est l'amour, et il pratique ces 5 langues couramment. Il exprime son amour de ces 5 façons-là, de manière parfaite, il n'a pas besoin d'apprendre, il connaît ces 5 langues-là. Et donc c'est ce que je voulais voir maintenant, c'est peut-être juste pour vous un rappel que Dieu vous aime, mais ça fait toujours du bien de le voir. Moi ça m'a fait du bien de lire le livre dans le sens où on voit que Dieu nous aime de la façon qui nous correspond. Il peut me parler de la façon dont je m'exprime et de la façon dont je comprends le mieux. Et ça fait du bien juste de considérer l'amour de Dieu pour nous. Au début, je m'étais dit, c'est marrant, Dieu, il parle ces 5 langues d'amour-là. Enfin, je vois pas trop à quoi ça ramène, qu'est-ce que ça a de biblique, tout ça. Et en fait, dès que je vais vous montrer, vous allez dire, oui, c'est évident. C'est parfaitement évident qu'il parle ces 5 langages-là. Donc, si je peux demander à Jacqueline de passer. Ah, donc, ça, c'était les 5 langages. Et donc, la seule idée d'aujourd'hui, peut-être, c'est que Dieu est amour et qu'il utilise parfaitement les 5 langues pour nous exprimer son amour. Donc la première façon, les paroles valorisantes, c'est une des premières évidences en fait. La Bible, c'est la parole de Dieu et elle contient énormément de paroles valorisantes pour nous. Et en fait, tout au long de la Bible, Dieu ne renie pas sa créature et au contraire, il souligne sa valeur. Et ça commence dès la Genèse où Dieu, il crée à son image et il trouve que tout ça, c'est bon. Donc il y a des versets dans Genèse aussi, ouais. J'en ai pris 2 là, mais il y en a tout plein en fait. Ça en fait 2 parmi les plus connus peut-être, qui valorise l'homme, qui lui donne de la valeur, et c'est une façon à Dieu de nous exprimer son amour. Donc dans Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et Jérémie 29, 11, qui est aussi très très connu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans toute sa parole, Dieu n'arrête pas de nous donner des bonnes paroles pour nous, de nous valoriser en disant tu es ma créature. Il y a dans Hébreux, c'est adressé à Jésus, mais c'est adressé à l'homme aussi en fait. Que Dieu dit, j'ai créé l'homme juste au-dessous des anges, j'en ai fait quelque chose de grand, je l'ai fait de peu inférieur aux anges. Et il parle comme ça de l'homme, en fait, à la base. Et Dieu connaît la valeur qu'il a donnée à l'homme. Et nous, on se dévalorise, mais lui, quand il nous parle, il nous valorise énormément, et c'est sa façon de nous exprimer son amour. Et dans la Bible, on voit qu'il y a un personnage qui était fort orienté comme ça, parole valorisante. Je ne sais pas si vous pensez à la même personne que moi si je vous dis ça. David, oui. David, en fait, il avec tous les psaumes, c'est sa façon d'exprimer son amour à Dieu, sa façon de lui dire qu'il l'aimait. Et ça passait finalement beaucoup par les paroles, par les bonnes paroles, par la bénédiction, dire du bien de Dieu. Et donc dans le... Alors c'est quelques versets pris dans le psaume 119. Le psaume 119, c'est un exemple, mais il y en a énormément. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, si vous regardez dans le verset, il insiste énormément sur la parole de Dieu qui lui fait du bien. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Je me réjouis de ta parole. Comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Sept fois le jour, je te célèbre, à cause de tes lois, de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Et je ne sais pas si j'en ai mis d'autres après. Oui, bon, il y en a énormément, en fait. Dans tous les psaumes, on le voit qu'il aime la parole de Dieu, et que lui-même exprime son amour à Dieu par des paroles, et qui bénit Dieu, qui le célèbre, qui l'exalte, qui le loue. Dans tous les versets des psaumes, en fait, on retrouve ça comme un fil rouge, en fait. Et ça peut nous montrer, bon après, voilà, c'est une interprétation particulière, mais que David était particulièrement sensible à l'amour qui était exprimé sous cette forme-là, et que lui-même avait tendance à le rendre sous cette forme-là. La deuxième façon d'exprimer l'amour, c'était les moments de qualité. Et là aussi, ça commence finalement dès la Genèse, où Dieu y passait du temps avec Adam et Ève dans le jardin, et on se dit qu'il devait passer des moments avec eux. On ne sait pas ce qu'ils se disaient finalement, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient peut-être pas déjà de jeu à l'époque, ils n'avaient rien de... On ne sait pas comment ils passaient le temps, mais ils passaient un moment qui était avec Adam et Ève, et quand ils ont perdu ça, ça a été un manque pour eux. Jésus, il a enseigné la foule quand il était là, mais il a choisi 12 disciples pour passer quelque chose de particulier avec eux, pour faire quelque chose de plus précis avec eux. Et il avait envie de leur transmettre de l'amour par des moments particuliers avec eux et pas uniquement avec la foule. Et ça, c'est valable pour nous aussi. Dieu, il ne s'adresse pas juste à toute l'Église, il s'adresse à chaque personne en particulier. Il prend soin de nous, et on le verra dans les versets d'après, c'est toute l'idée de la foi, en fait, et d'être sauvé, c'est qu'on accepte Jésus dans notre cœur, et étant dans notre cœur, on peut passer des moments avec lui, et pour certains, c'est juste être avec Jésus, c'est recevoir son amour, et être avec quelqu'un, c'est lui donner de l'amour. Et pour certaines personnes, c'est comme ça, leur façon de recevoir l'amour, c'est d'être avec eux, passer un moment avec eux, et ça, ça leur fait du bien. Dans la Bible toujours, Marie, la sœur de Marthe, alors ça c'est pareil, c'est l'interprétation de l'auteur, mais finalement ça colle, elle était peut-être sensible à ces moments-là, parce qu'elle s'asseyait, elle écoutait Jésus, et ça lui faisait du bien d'être avec Jésus. Alors que Marthe, elle était affairée à la cuisine, et finalement on peut la prendre dans l'autre catégorie qui était les services rendus, et finalement Jésus, là, à ce moment-là, il faut passer des moments avec moi, c'est important. Donc une parole de Jésus, qui montre que lui-même, c'était sa façon d'exprimer son amour, qui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Et le but du Saint-Esprit, c'était de venir et de, dans un sens, remplacer Jésus en nous, et qu'on ait la présence de Dieu en nous, et cette présence, rien que cette présence, en fait, ça nous donne l'amour de Dieu pour nous. c'est sa façon à Dieu d'exprimer son amour envers nous. Il y avait peut-être Jean 14. Donc c'est ce que je viens de dire, en fait, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et Jésus dit qu'il vient pour qu'il demeure éternellement avec nous. Le monde ne peut pas le recevoir, ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un petit exemple de ça que j'ai trouvé assez frappant, assez extraordinaire, c'est George Müller. Alors je connais pas sa biographie, mais on sait qu'il s'est occupé d'orphelinat et qu'il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Et en fait, juste quelques lignes de son journal à lui, un peu son journal intime. Donc le 18 juillet 1832, j'ai passé toute la matinée dans la sacristie pour avoir un moment paisible. Compte tenu de la multiplicité des engagements, c'est souvent le seul moyen pour moi de mettre du temps pour prier, lire la parole et méditer. Le lendemain, je suis resté dans la sacristie de 9h30 jusqu'à 1h. J'ai joui d'une réelle communion avec le Seigneur, louange à son nom, lui qui m'a mis à cœur d'utiliser la sacristie comme lieu où je peux me retirer. Le 25 juin 1834, voici 3 jours qui s'écoulent sans que j'aie pu avoir, ou à peine, d'instant de véritable communion avec Dieu. En conséquence, j'ai été très faible au point de vue spirituel. À plusieurs reprises, j'ai ressenti l'irritabilité. Et donc, quelques jours après, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, me lever de bonne heure et avoir presque 2 heures de prière avant le petit déjeuner. Maintenant, je me sens mieux. Et 29 septembre 1835, hier soir, après avoir pris congé pour la nuit des amis qui nous reçoivent, je me disposais à me coucher immédiatement. J'avais déjà prié auparavant. Je me sentais peu bien, la nuit était froide, autant de raisons pour aller au lit tout de suite. Mais Dieu m'aida à me mettre à genoux, et j'avais à peine commencé de prier, qu'il resplendit en mon âme, me communiquant un esprit de prière que je n'avais plus depuis longtemps. Dans sa bonté, il fit revivre son œuvre en moi, me donnant le sentiment de sa présence et ranimant ma ferveur d'esprit pour l'intercession. C'était après cela que mon âme soupirait depuis 2 semaines. Cette communion dura plus d'une heure. Je me suis levé plus tôt que d'habitude pour avoir quelques instants de communion avec le Seigneur avant le petit déjeuner. Que Dieu daigne continuer de faire habiter sa joie dans le cœur de son indigne enfant. La façon suivante d'exprimer l'amour sont les cadeaux, les dons. Là, c'est pareil, il y en a dans toute la Bible. Dès le début, Dieu donne tout à l'homme, en fait. Il lui donne toute la création, il lui demande d'en prendre soin, mais il lui donne. Ensuite, à Israël, donc dans Deutéronome 7, il dit « Dieu t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût, ton huile et les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. » Un exemple de personne à qui Dieu a donné aussi beaucoup, Salomon, à qui Dieu a simplement dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » On a un Dieu qui donne sans aucune mesure, et c'est sa façon de nous exprimer son amour. Il donne. Et encore une fois, un principe de la foi chrétienne, c'est Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est toute la base de notre foi, c'est que c'est Dieu qui a donné d'abord. Et sa plus grande façon d'exprimer l'amour, le plus grand don qu'il pouvait faire, c'était Jésus, c'était son Fils. Et après, aux disciples encore, ça s'est pas arrêté juste au don de Jésus où Dieu aurait pu dire « Voilà, j'ai tout donné, je peux rien donner de plus. » Il continue aux disciples et il dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et encore à l'Église après, dans Éphésiens, finalement, Dieu donne encore à notre époque, maintenant. Il s'est pas arrêté aux apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Même l'esprit, simplement, c'est un don. Et à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Tout ce qu'on a, finalement, c'est un don de Dieu, et c'est pas juste un don comme ça, sans but, c'est un don pour montrer l'amour. Et c'est la façon que Dieu a choisi de nous aimer. Alors, petite phrase comme ça. Le mot don, il vient du mot grec charis. Et charis, ça veut dire faveur imméritée. C'est comme la grâce, finalement. Et c'est, comme on dit, l'amour, enfin, Dieu est amour, Dieu est don aussi, en fait. Il nous donne sa grâce, il est la grâce. La quatrième façon de montrer l'amour, de donner l'amour, les services rendus. Alors, j'ai vite fait quelques citations. Une personne qui a rendu beaucoup de services et qui a été employée énormément par Dieu, c'est Mère Teresa. Et elle a eu des paroles qui sont assez extraordinaires, en fait. L'amour vrai fait souffrir. Pour donner des preuves de son amour, Jésus est mort sur la croix. Pour donner le jour à son enfant, une mère doit souffrir. Si vous aimez les uns les autres, vous ne pourrez pas esquiver les sacrifices. Il y a un frère missionnaire qui venait lui rendre visite. Le frère était angoissé, préoccupé, et il dit à Mère Teresa, « Ma vocation est de m'occuper des lépreux. » Et c'est écrit entre parenthèses, « En effet, il est de ceux qui les aiment beaucoup. » Donc le monsieur continue, « Je veux consacrer ma vie et toutes mes forces à me dévouer pour eux. » Mère Teresa lui a répondu, « Mon frère, je crois que vous êtes dans l'erreur. Votre vocation, c'est d'appartenir à Jésus. C'est lui qui vous a choisi pour son service. Le travail n'est qu'un moyen de manifester votre amour pour lui. Ce qui compte à ses yeux, ce n'est pas tant le travail que vous réalisez, que le fait que vous lui appartenez, que vous vous êtes voué à lui, et qu'il vous accorde les moyens de tout faire pour lui plaire. » Et elle avait compris ce principe que c'est Dieu qui a tout donné, que ce soit sous différentes formes. Là, en l'occurrence, c'est le fait de pouvoir servir, de travailler pour Dieu. C'est Dieu qui le donne et nous, on le rend après, sans oublier que c'est pour Dieu qu'on fait tout ça. Et comment Dieu, il a rendu des services, en fait, à son peuple dans le désert. Il l'a aidé, en fait, par toutes sortes de choses. Quand il a partagé les eaux de la mer Rouge, quand il a donné la manne, quand il a donné de l'eau à plusieurs reprises, quand il a donné la viande. Et Jésus aussi a pas arrêté. En fait, tous ces miracles, c'est des services qu'il rendait aux gens. C'est des guérisons qu'il a accomplies. Et d'ailleurs, il se base sur ça, dans un sens, pour justifier le fait qu'il est fils de Dieu, pour le confirmer. Et quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père », Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » C'était un argument pour croyez en moi, regardez les œuvres que je fais. Est-ce que ça, c'est pas le signe que je suis fils de Dieu, que je suis Dieu et que je vous donne l'amour de Dieu ? Et encore une fois, on retrouve le principe que c'est les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et tout ce que Jésus faisait, finalement, il ne le faisait pas de lui-même, il le faisait de la part de Dieu. Et c'est le principe qu'on doit adopter nous aussi quand on donne de l'amour aux gens. Le principe, c'est qu'on le donne de la part de Dieu et que c'est Dieu qui fait les choses en nous. C'est pas de nous-mêmes qu'on prend ces initiatives-là et qu'on fait les choses un peu comme on le sent. Donc, encore une fois, le plus grand service que Jésus pouvait nous rendre, c'était de mourir pour nous. On peut le voir sous la forme d'un service, en fait, son sacrifice. Et ce qu'il nous demande après, c'est de faire la même chose que lui. dans Jean 15, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand service qu'on puisse rendre, c'est de donner sa vie. Et c'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'on retrouve dans Romains 5, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça aussi, c'est un encouragement pour nous. Jésus, il a pas cherché des gens bien pour qui mourir. Il nous a pris nous, et c'est loin, loin d'être des gens bien. Et nous aussi, notre amour, on doit le donner sans chercher à dire, je vais le donner à lui parce que lui, il est bien, il le mérite, ou lui, pas forcément, et puis peut-être il est en colère contre Dieu, il ne le mérite pas. Tout le monde mérite l'amour de Dieu, et donc tout le monde mérite notre amour. La dernière façon d'exprimer l'amour, c'est le toucher physique. Il y a simplement des gens qui, quand ils sont dans la présence de Dieu, ont l'impression d'être dans ses bras, d'être touchés par lui. Et on exprime ça des fois. J'ai été touché par le Seigneur, ou il m'a touché. Et il y a quelque chose qui est quasiment physique. Ça ne l'est pas, parce que Dieu n'est pas physique. Mais c'est presque comme s'il pouvait intervenir sur notre corps et nous faire sentir qu'on l'a touché, qu'on a été en contact avec lui. Jacob a été touché par Dieu directement. Et la preuve, c'est qu'il a eu la hanche déboîtée et que ça s'est resté marqué. Moïse a vu Dieu et il y a eu des traces physiques sur son visage. Il avait le visage qui resplendissait après. Et Jésus prenait les petits-enfants dans ses bras et pour beaucoup de miracles, en fait, il a touché les gens pour les guérir. Il aurait pu se contenter aussi de « je te guéris » ou de prononcer quelque chose, de prier, faire quelque chose. Souvent, il a touché les gens. Et c'est aussi un signe de l'amour de Dieu passe par ce moyen-là, et nous aussi on peut l'exprimer par ce moyen-là, de parfois prendre les gens dans les bras, de leur tenir la main, de les soutenir d'une façon ou d'une autre. On peut exprimer l'amour rien qu'en touchant les gens. Et Dieu l'a fait comme ça aussi. Donc là j'avais pris juste deux exemples, mais il y en a énormément. De l'aveugle à qui Jésus a fait de la boue et a oint ses yeux, il a touché ses yeux avec la boue pour le guérir. Les lépreux qui s'approchaient de lui, Jésus étendit la main, tout en bas, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Une façon de témoigner l'amour, donc, c'est de toucher. Et ce que faisait Jésus, ce qu'on retrouve aussi dans la Bible, c'est que toucher, ça donnait de la force. Alors, c'est pas quelque chose de magique ou quoi que ce soit, mais par le toucher, par l'amour qu'il transmettait, de la force aussi. Et quand les disciples ont été effrayés d'avoir vu la gloire de Jésus sur la montagne, ils étaient à genoux, ils tombèrent sur leur face, donc c'est Matthieu 17, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Donc ça dit bien, Jésus s'approchant, les toucha. Et les hommes qui sont faibles et que Dieu intervient, les touche pour les faire se relever. On retrouve ça dans Apocalypse, dans Daniel. Alors c'est souvent à travers un ange aussi que Dieu intervient. L'ange touche l'homme et lui dit « Sois fortifié ». Et après avoir été touché, la personne peut se relever et elle est effectivement fortifiée. Une des façons qu'a utilisé Jésus pour montrer son amour, c'était de laver les pieds de ses disciples. C'était dans Jean 13. Je ne peux pas avoir mis le bon verset. Mais c'est ça. En fait, ce qui était intéressant, c'était que Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et sa façon de mettre le comble à son amour, c'était de s'agenouiller et de les toucher. Finalement, il y avait aussi en même temps le fait qu'il nettoyait les pieds. Mais c'était de s'humilier pour eux. L'idée, elle est de s'humilier. Mais il y a quand même le fait qu'il les a touchés de cette façon-là, en lavant les pieds. Une dernière citation de Mère Teresa. une personne était venue lui dire qu'elle ne toucherait pas un lépreux pour 1 million d'euros. Et Mère Teresa a répondu, moi non plus. Si c'était pour de l'argent, je ne le ferais même pas pour 2 millions. Par contre, je le fais de bon cœur pour l'amour de Dieu. Elle avait du répondant, apparemment. Les disciples ont continué le ministère de Jésus. C'était pas juste quelque chose qui était lié à Jésus, que lui touchait pour guérir. Quand Pierre et Jean vont au temple et qu'ils rencontrent quelqu'un qui était boiteux, on a le verset ici dans Acte 3, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. On a encore ce ministère, cette façon d'exprimer l'amour, de toucher les gens. Alors c'est sûr que c'est peut-être un peu plus délicat à notre époque, parce qu'il y a des fois des excès, des débordements, des façons de faire qui sont pas correctes. Mais il faut faire attention à la façon dont on le fait, mais il faut pas se priver de ça. Je pense que ça fait du bien à quelqu'un qui est dans un moment difficile, d'être pris dans les bras, d'être entouré, d'être touché, de transmettre l'amour de cette façon-là. Ça peut faire tout autant de bien que de prier avec. On peut faire les deux avec, comme ça la personne a une double dose d'amour. Mais c'est encore quelque chose qu'il faut utiliser, le toucher physique, toucher les gens. Et il y a plein... Il ne faut pas se priver de ça, quoi. Il y a plein de façons d'exprimer l'amour, même de cette façon-là. Et il faut surtout continuer à l'utiliser. L'idée de ce qui était aujourd'hui et ce qui était la fois dernière, c'était de dire qu'on a un langage, une façon principale d'exprimer son amour. Et comment est-ce qu'on peut trouver cette façon d'exprimer notre amour? C'est pas forcément toujours évident. Il y a des gens chez qui ça se voit directement. On voit que pour montrer aux gens qui les aiment, ils font comme ça et c'est flagrant. Et pour d'autres, c'est pas forcément évident. Et quelques petites questions qui peuvent aider, tout en haut là-bas. Comment est-ce que j'exprime le plus souvent mon amour à autrui? De quoi est-ce que je me plains le plus souvent aussi? Si je m'en plains, ça veut dire que j'en manque et que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et qu'est-ce que je réclame le plus souvent? Et ça, c'est valable peut-être pour des gens physiques, on va dire, mais c'est tout aussi valable entre Dieu et nous. Sous quelle forme est-ce que je témoigne le plus souvent mon amour à Dieu? De quoi est-ce que je me plains le plus souvent auprès de Dieu? Est-ce que j'ai besoin qu'il me rende des services, qu'il me touche, qu'il me fasse connaître sa présence? Tous ces signes qui montrent que c'est pas tout à fait la même façon que j'attends de voir l'amour, et pourtant Dieu, il exprime son amour des 5 façons. S'il y a un problème, c'est que c'est nous qui ne le voyons pas. C'est pas lui qui manque d'amour envers nous. Et donc, en quoi c'est intéressant de connaître notre principal langage d'amour? C'est que déjà on se connaît mieux soi-même, on connaît peut-être un peu mieux ses réactions aussi, et se dire si je réagis comme ça, c'est qu'il m'a manqué ça, et je le sais parce que je me connais. C'est aussi la capacité de mieux comprendre et d'aider plus efficacement les gens, donc nos frères et sœurs dans la foi, mais des fois juste notre famille, nos amis. Quand on sait qu'ils s'expriment de cette façon-là, on peut travailler ce langage-là et leur exprimer l'amour sous la façon qu'ils vont recevoir et qui sera efficace. Alors, l'auteur fait toute une série de chapitres sur le fait qu'on est très ancré dans nos habitudes, en fait. On a toujours les mêmes façons de faire les choses, les mêmes façons de vivre, en fait. On est très, très pantouflard. Je me reconnais beaucoup dans tout ça. Et en fait, il encourage les gens, et je vous encourage aussi, à essayer de trouver d'autres façons d'exprimer votre amour. Pas rester toujours dans les mêmes choses, mais essayer d'élargir un peu vos horizons, de trouver d'autres... pas forcément technique, mais d'autres gestes, d'autres paroles. Et pour les paroles valorisantes, on peut très simplement remercier Dieu pour chaque objet qu'on possède. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais on a tendance, par exemple, au repas, à dire toujours « Merci Seigneur pour ce repas, merci pour ce qu'on peut manger » ou « Merci pour la journée qu'on a passée, merci pour la journée qu'on va passer, merci pour la journée qu'on passe, qu'on passera, ouais, je ne sais pas. Enfin, » on utilise tous les temps, mais finalement, l'idée reste assez basique et on a tendance à s'enfermer dans des choses qui deviennent plus des habitudes, des rituels, et ça en perd un peu sa signification. Et juste asseyez-vous dans une pièce chez vous, et puis après regardez les objets un par un et remerciez Dieu pour ça, parce qu'il vous les donne, ces objets-là. On peut remercier Dieu pour toutes les personnes qu'on connaît. On a pas mal de boulot à faire. Hein. Remercier Dieu pour chaque élément du règne végétal ou animal. Il y en a qui prennent une série d'animaux et qui disent merci Seigneur pour ces animaux-là. Chacun y joue son rôle, chacun il est merveilleux à sa façon. On peut remercier Dieu pour chacune de nos parties de corps qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins, mais qui joue son travail quand même. Si elle n'était pas là, on aurait quelques difficultés. On peut faire preuve d'imagination. En fait, c'est on peut prier en roulant. Bon, faut garder les yeux ouverts, mais on peut prier en roulant aussi. On n'est pas obligé de s'asseoir chez nous, toujours dans le même canapé. Toujours, je croise les mains, je ferme les yeux et je prie. Il y a plein de façons d'exprimer notre amour à Dieu, de le prier. Et il faut essayer de changer. Là, par exemple, écrire une lettre à Dieu. Ça paraît bête, hein, mais finalement, c'est une façon d'exprimer notre amour, même si cette lettre, elle reste fermée, elle reste dans votre Bible. Hein. Pour les moments de qualité, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens qui sont sensibles à ce langage-là vont plutôt avoir tendance à se tourner vers la méditation, des lectures, de la prière pour passer du temps avec Dieu. On peut, un exemple, c'est de prendre des versets sur des fiches, et pendant que vous promenez, vous avez vos fiches, vous pouvez les apprendre, vous pouvez les réciter, vous pouvez les méditer même en baladant, et ça permet d'avoir un petit stock de fiches, et ça permet aussi, le jour où vous n'avez plus de Bible, d'avoir de quoi. Alors pareil dans les façons de rendre votre culte quotidien au Seigneur, certains passent juste 20 minutes tous les matins entre 6h05 et 6h25, d'autres c'est pas la semaine et ils essayent de se garder plusieurs heures le week-end, d'autres c'est le soir, enfin il y a plein de façons et il faut essayer de varier les choses, ça permet aussi des fois de ne pas avoir l'esprit coupé. On change de situation et du coup on pense à d'autres choses et on prie d'une autre façon que ce qu'on fait habituellement et ça nous fait du bien. Alors pour les cadeaux, Jésus explique lui-même qu'il n'y a pas que le don d'argent. C'est le cadeau, c'est pas juste je donne de l'argent. Jésus disait qu'un simple verre d'eau fraîche ne passe pas inaperçu. Alors vous contentez pas d'eau fraîche, il y a plein d'autres choses à donner, hein, mais on peut, dans tous les cas, on peut prendre soin des gens, leur donner des petites choses. Des fois, c'est pas grand-chose, mais un petit don, ça peut faire plaisir à quelqu'un et ça peut lui faire du bien. L'auteur donne le don de paroles d'encouragement. Pour lui, c'est un don, donner des paroles d'encouragement. Vous donnez une parole à quelqu'un et c'est quelque chose de précieux aussi. Les services rendus, on peut mettre sa cuisinière ou ses fours au service des autres, en préparant des repas, des biscuits, des gâteaux, du café, des fois. Des fois, c'est juste mettre nos compétences au service des autres, pour des travaux qu'on sait faire que les gens ne savent pas faire, ou ça peut être vraiment un tas de choses et il faut être imaginatif, c'est une façon concrète d'aimer les gens. Et le toucher physique, ça peut être aller toucher, enfin moi j'ai l'image des gens dans les maisons de retraite qui sont souvent au bord, vous savez, du couloir, et aller leur dire bonjour, leur serrer la main, ça peut leur faire un grand bien parce que finalement il n'y a pas grand monde qui va les voir et qui prend la peine de les toucher. Ça peut être dans une maison de retraite, donc dans des hôpitaux. Ça peut être, certains trouvent avec des SDF. Et donc j'ai écrit là, certains gestes de base font le plus grand bien. Une simple tape amicale dans le dos, serrer la main, mettre sa main sur l'épaule de quelqu'un ou le prendre dans les bras. C'est des choses toutes simples mais qui communiquent de l'amour et qui sont importantes. Alors je vous laisse avec quelques questions. Quels sont les signes de l'amour de Dieu pour moi? Est-ce que je vois l'amour que Dieu m'exprime et comment est-ce qu'il l'exprime? C'est bien de regarder comment Dieu m'aime et ça fait du bien juste de se dire Dieu m'aime en fait. Et penser que Dieu m'aime, ça nous aide à grandir spirituellement. Je pense que l'amour, c'est le moteur de tout ce qu'on doit faire. Et être conscient réellement que Dieu m'aime, ça m'aide à avancer dans la foi. Comment est-ce que je lui montre ma reconnaissance? En pratique, comment est-ce que mon amour se traduit pour les autres? Parce que c'est facile de dire, moi j'aime mes frères et sœurs, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon conjoint, j'aime mes collègues de travail. C'est assez facile de le dire, quoique pour des fois c'est un peu plus dur, je sais pas. Il y a des exceptions quand même, allez. Mais comment est-ce que, en pratique, je montre aux gens que je les aime? Et comment, en pratique, je montre mon amour à Dieu? qu'est-ce que je fais de concret pour lui montrer que je l'aime? Il ne faut pas se contenter de dire que j'aime, il faut le faire. Et Jésus l'a fait par tous les moyens, on l'a vu. Il a aimé les gens, il les a touchés, il a passé des moments avec eux. Il leur a rendu des services, il leur a donné des choses. Il a tout fait pour montrer qu'il nous aime. Et je vous encourage vraiment à réfléchir sur votre façon de recevoir cet amour-là et votre façon de le donner. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'aimes et que tu me le montres d'un tas de façons différentes, et ça me fait tellement du bien, Seigneur. Et je te remercie de ce que tu aimes chacun d'entre nous, et Seigneur, tu voulais le rappeler aussi par ça, qu'à chacun d'entre nous ici, tu donnes des choses, Seigneur, tu passes du temps, tu touches, tu rends des services, Seigneur, et tu fais un tas de choses, Seigneur, pour montrer que tu aimes. Et si souvent on rate le coche, on ne voit pas ces choses et on s'enferme dans notre propre système. Et je te prie pour chacun d'entre nous qu'on réalise que tu nous aimes d'une manière très concrète, Seigneur. Pas juste avec des paroles, mais vraiment par des choses concrètes. Et que tu nous aides chacun d'entre nous à mettre en pratique cet amour comme tu nous encourages de le faire, Seigneur. Amen.